Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Souvent, les réponses précèdent les questions. Oui, souvent, c'est parce qu'apparaissent des tentatives de réponse qu'on prend conscience de la présence d'un questionnement. Dans la sphère sémiologique qui nous occupe ici, on constate que lorsqu'une question est posée, elle suscite souvent deux réponses en miroir, comme un fruit ouvert ferait apparaître ses deux moitiés et exhiberait son noyau. Bon, peut-être est-il plus juste de dire que l'air du temps fait sentir des parfums, ou la note de tête, celle qui ne dure pas mais qu'on sent en premier, ne va pas sans note de fond, celle qui perdure mais ne se développe qu'au bout de quelque temps. Ces notes se font écho et créent la complexité et le sillage du parfum. Mais parfois, le parfum pue. Ainsi, dans les mythologies du quotidien, la prévalence de certains mots renseigne sur ce qui travaille une époque. S'il y a un mot malin, un mot qui incarne ce qu'il est, c'est bien celui de filtre. Vos troisièmes oreilles affûtées le savent bien, un mot fait ce qu'il est. Chacun se demande sans doute si je parle là du filtre ou du filtre. Du filtre à café, à air ou du filtre d'amour. Bien qu'un café puisse faire office de filtre d'amour, s'il est par exemple apporté le dimanche matin au lit, il nous faut pourtant, pour aujourd'hui du moins, laisser de côté le sorcier breuvage, celui qui, commençant par un magnifique pH, se donne un air un peu mystérieux, comme le nénuphar qui fleurit beaucoup plus superbement depuis que Marcel Proust l'a orthographié avec pH. Bref, ne digressons pas trop et revenons à notre innocent filtre avec un F. Eh bien, figurez-vous, avec un F, que même ce filtre-là est rien moins que tranquille. Le filtre, qu'il soit à eau ou à particules, filtre électronique ou à café, retient en ses mailles les impuretés ou le marc de café que les Occidentaux n'aiment pas boire mêlé à leur café. Il est pur, diraient certains. Mais c'est soit en retenant la matière, soit en l'y faisant passer, soit encore en la transformant, comme c'est le cas pour le filtre électronique. Le filtre est très joueur, il n'a de cesse de se retourner, il a même un côté malin. Mais n'allons pas trop vite, la réflexion exige à la fois temps, rigueur et nuance. Bref, la réflexion est un filtre. Aujourd'hui, enfin jusqu'il y a peu, il était de bon aloi d'être sans filtre. C'est du moins ce qu'on prétendait. Ras-le-bol des hypocrisies, des conventions, des détours. Allons, bas les masques, dites les choses telles que vous les pensez. Dites tout ce que vous pensez, soyez vous-même. Et la plus diabolique des injonctions contradictoires, soyez spontané. Que quelqu'un me dise comment on peut décider d'être spontané. Ou pourquoi on serait plus spontanément direct que retenu. Car la spontanéité n'est pas l'impudence, ni la pudeur une dissimulation. Et même... Pourquoi faudrait-il donc ne rien dissimuler? Pourquoi ne pas retenir dans le filtre de nos humeurs ce qu'il est préférable de garder pour soi? Le filtre sépare l'intime du partageable, tout autant qu'il crée les conditions pour qu'un peu d'intime soit partageable. L'art est un filtre, et le filtre est tout un art. Derrière l'injonction à ne pas avoir de filtre, on trouve des choses assez diverses, et cela selon la taille des mailles du filet. Lacan disait que la psychose était l'inconscient à ciel ouvert. Ne pas avoir de filtre est douloureux et terrifiant. Pour autant, l'omniprésence de filtres opaques aux mailles extrêmement serrées enferme le sujet en lui-même dans la douleur et la terreur. Car le filtre retient et laisse passer. Celui qui n'a pas de filtre n'est ainsi pas seulement celui qui dit tout comme ça lui vient. Il est aussi celui qui ne dit rien du tout, qui reste enfermé en lui-même, faute d'avoir un filtre qui laisse passer l'air, l'eau, le carburant ou le café. En celui ou celle dont rien ne sort, tout est mélangé, confus, invivable. Le premier n'a pas de filtre, et le second a un filtre qui n'est plus un filtre, mais un bâillon. Être humain, c'est pouvoir jouer avec les filtres, pouvoir faire varier la taille des interstices de notre étoffe pour laisser passer plus ou moins de lumière, plus ou moins d'autres aussi. Ce textile, qui est notre peau d'humanité, c'est le texte. Chaque civilisation produit un type de filtre, et chaque être humain qui en hérite et le transmet, à son tour, le modifie, l'ajuste, le fait varier dans le vivant de la vie. Voilé et dévoilé, voilé pour dévoiler, dévoilé pour voiler, tous les jeux devraient être possibles tant cette question est intime et foncièrement humaine. Car la question du filtre interroge aussi, et peut-être avant tout, le statut de la parole et la question de sa liberté. Qu'est-ce que le langage, si ce n'est le filtre par lequel nous appréhendons le monde ? Exiger l'absence de filtre ou au contraire imposer des filtres aux mailles si rigides et si serrées qu'on ne peut plus respirer, c'est se prétendre maître du langage. Une culture se définit par ses filtres, leur souplesse, leur fiabilité, leur variété. Chacune produit ses oppresseurs, ses rebelles et ses opprimés. Encourager à ce qu'il n'y ait aucun filtre, ce qui bien évidemment est un filtre comme un autre, et quelques borborygmes, quelques grimaces, quelques sauts de primates suffiront certainement à vivre en société. Après tout, les bonobos et les fourmis y arrivent bien. À quoi servent tous ces romans, ces poésies, ces écrits philosophiques, politiques ? Éliminons donc ce moment où l'orchestre s'accorde dans un brouhaha enchanteur. Oublions même toutes ces notes qui précèdent nos accords préférés. Allons droit au but, juste ces accords. Oh, et puis après tout, pourquoi encore la musique ? Oublions de nous faire la cour. Oublions les regards, les attentes, les incertitudes, le trouble du désir. Et comme on dit de plus en plus, faisons du sexe. Comme disaient des proches, la main dans le machin et le machin dans la main. Sans filtre, on n'a plus une magnifique écharpe voluptueuse et parfumée, mais un tas de laine. L'absence de filtre, que les mailles soient trop larges ou trop serrées, est la fin pure et simple de toute humanité. Car si l'on peut rêver à une disparition du langage quand les corps s'attirent et que les cœurs s'accordent, c'est bien dans un cauchemar que nous projette l'absence de langage quand la colère gronde, que l'inimitié est patente, que les cœurs se détestent et les corps se repoussent. Comme on l'a vu, le filtre est très malin. Et, comme il est une des possibilités du langage, voici que notre petit mutin, furibard d'avoir été refoulé, revient par la petite fenêtre de nos écrans. Et comme tout refoulé, il ne sent pas très bon. Et comme tout refoulé, il revient impérieusement. La question du voile, question qui instrumentalise la question du filtre, est une question ardente. La question de la modération des contenus, avec toute sa perversité, souffle un vent mauvais sur les braises hautement inflammables de cerveaux desséchés. À l'instar des filtres Instagram ou Snap, il y a des filtres qui, loin de laisser passer la lumière en la tamisant, loin de révéler l'alchimie complexe et délicate de chaque être par la qualité de son étoffe, la taille de ses mailles ou encore l'élasticité de son tissage, au contraire, badigeonnent sur les plus frais visages une sorte de bouillie qui efface toute singularité. Voilà ce que font les réseaux sociaux de la question du filtre. Une mascarade hideuse où l'exigence de transparence ne cache plus sa soif de contrôle, où l'injonction à laisser libre cours à tous ses fantasmes ouvre une voie royale à tous les fanatismes. Tout laisser dire ou tout museler, c'est refuser qu'il existe des filtres dont on n'est pas les maîtres. Décidément, il est des parfums dont le lourd sillage nous empoisonne. Décidément, il est des parfums qui empestent. Nul doute que ceux qui les créent, les répandent et en tirent profit sont des ennemis de l'humanité. I've got big balls, I've got big balls.